Bienvenue au Voyeur de vue, un podcast pour ceux qui sont éternellement devant l'écran. Cette semaine, vos voyeurs sont moi-même, Yannick Belzile.
Et moi, Alex Rose. Et cette semaine, Yannick, on est littéralement devant nos écrans d'ordi, un épisode old school de type confinement.
Oui, pas parce qu'on
en
est confiné.
Non.
On n'est pas malade ou rien, c'est juste que les horaires ont fait que... on pouvait juste faire ça comme ça. Alors, c'est ainsi qu'on le fait, mais bientôt, on
c'est
va recommencer à enregistrer de face à face à la bonne franquette, comme d'habitude. Mais idéalement, sans se crier après. Le son à la chic qui régale était correct, je crois.
Ouais, c'était bien, mais il y avait comme deux filles qui sont venues s'asseoir, tu sais, comme, somme toute, très proches de nous pour à quel point le bord n'était pas bondé. Donc, tu sais, ça, on ne peut pas rien y faire. On ne peut pas dire pardon, les jeunes zoomers. Pouvez-vous vous en aller, là, les vieux monsieur, enregistre un podcast sur le film Women Talking? Ça n'aurait pas fonctionné.
Évidemment. Women, chut! Nous autres, on parle de Women Talking.
C'est ça. Fait que, alors, il y avait des Women Talking dans notre épisode de Women Talking, qu'on le veuille ou non.
Ce qui est tout indiqué, c'est de toute beauté. On va y aller avec nos films de la semaine. Cette semaine, on a juste deux films, mon cher.
Oui.
On va commencer, bien sûr, avec notre segment récent qu'on fait, c'est qu'on fait des films. On regarde des films d'ici, des films du Québec, des films bleus.
Oui.
Cette semaine, on a visionné, toi et moi, un film de Pierre Houle qui est sorti en 2004, qui met en vedette Céline Bonnier, Roy Dupuis, Patrick Huard, Franck Scorpion et Isabelle Blais, ainsi que Rémi Girard, gros crew. On a vu Monica la Métraille, qui est un film qui met justement, qui nous raconte la vie de Monique Sparvieri, qui est une jeune dame qui grandit dans la misère, dans le centre-sud de Montréal. Et puis, elle décide de tout faire pour se sortir de ce milieu-là. Puis, une partie de ça est de s'amouracher de gangsters, d'hors-la-loi, et de prendre goût davantage à la vie d'hors-la-loi pour sortir de la pauvreté, mais aussi parce que, clairement, elle aime le thrill qui vient avec.
Exact.
C'est basé sur une histoire vraie.
Et aussi basé sur un roman qui est basé sur l'histoire vraie. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que, tu sais, moi, je lis les vieux journaux, right? Et j'ai fait un peu de recherche. Honnêtement, j'aurais aimé en faire plus cette semaine. On était un peu occupé. J'ai commencé une nouvelle job cette semaine. Donc, ça m'a un peu. Ça a un peu focaillé la patente. Mais moi, j'avais toujours l'impression que Monica Lamitraille, c'était une espèce de folk hero, tu sais, québécoise. Au même niveau que, mettons. Richard Blass, quoi, que Richard Blass était un meurtrier, non pas un gars qui faisait juste voler des banques, mais tu sais, tout le monde savait c'était qui Richard Blass pendant que Richard Blass était encore en vie, faisait des crimes. Donc, j'ai fait un peu de recherche dans les vieux journaux et, ben, pas ma grande surprise, vraiment, Monica Proietti, qu'elle s'appelait pour vrai dans la vraie vie, non pas Sparvieri, avait pas vraiment de réputation avant sa mort. On entend parler d'elle quelques fois dans des faits divers, puis elle s'appelle jamais Monica Lamitraille, elle s'appelle Machine Gun Molly. Jamais qu'ils l'ont appelée Monica Lamitraille avant. En 1968, il y a eu une comédie, ce qu'on appelle une tragédie musicale, par Michel Comte, qui est un genre de songwriter, chorégraphe, tout ça, qui a rendu l'histoire qui était récente. Là. Fait qu'il a dû commencer à travailler là-dessus le jour où elle est morte, là, parce que c'est sorti comme un an plus tard. Avec Denise Filiatro. Puis c'est là, je pense, la racine de Monica Lamitraille a vraiment pris là, l'idée là, pas vraiment une gangster's mall, le gangster's mall qui est comme un peu la blonde du gangster qui fait des crimes avec lui. C'est ça au début, puis elle devient un peu la chef de sa bande plus que suiveuse. Mais c'est ça. Donc toute cette image-là, qui existait quand même un peu, parce que moi, je me souviens quand le film est sorti, j'avais quand même, je pense, une certaine idée de Monica Lamitraille en tant que, tu sais, comme personnage mythique urbain. Là. Mais c'est vraiment venu de la tragédie musicale. Puis après ça, du livre de Georges Hébert Germain qui est sorti en 97. C'est là maintenant, elle s'appelle Sparvieri. Puis qu'ils ont changé les noms des personnages, tout ça. Puis là, ça devient un peu déjà... Fait que le film est plus une adaptation d'un roman historique comme un vrai biopic, je te dirais. Mais quoique, j'ai pas lu le roman, mais comme on va voir bientôt, le roman en tout cas, le récit qui est présenté dans le film est extrêmement répétitif et rattaché à ce qu'on imagine être la vraie histoire, là, parce qu'il n'y a pas de raison de faire un film qui se répète autant si c'est pas pour être accurate historiquement.
Ouais, ben je te dirais que c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup pour moi. M'a dit pour commencer, j'ai tout de même aimé ça. Puis une raison pourquoi j'ai aimé ça, c'est qu'il y a tout de même comme un certain artifice dans le film sur deux paliers, c'est que le production value est très fort.
Effectivement.
C'est la reconstitution d'époque, de costumes et de. Puis, tu sais, il y a des scènes qui sont très stylisées, il y a d'autres scènes plus tard qui sont étrangement comme juste tournées dehors.
Ouais. Mais c'est ça qui est weird aussi. C'est, le film, il met vraiment la sauce au début. T'sais, je sais qu'un film, c'est pas tourné dans l'ordre. Fait que je sais que c'est pas nécessairement genre, ils ont manqué d'argent. Mais c'est vraiment ça un peu qu'on a. C'est comme le production value au début est vraiment intense, vraiment bon. C'est stylisé. Puis là, plus le film va, plus ils sont tout le temps sur le même bloc de rue en train de se crier après. Toujours devant la même patate, là, ou whatever. Genre, tu sais, là, soudainement, ça prend une forme plus téléromanesque, là, dans la deuxième moitié.
Ben oui, parce que, tu sais, comme justement, il y a une scène où Monica vient de s'enticher de son mari, Michael, qui est essentiellement joué par Frank Scorpion, qui a un gros air dans l'accent et dans le look et dans le jeu d'un Liam Neeson,
oui,
le choix du président.
Il joue un Écossais, mais il joue un Écossais comme si c'était Liam Neeson. Il ne fait pas vraiment la différence, là. Puis...
Mais tu sais, ils sont ensemble dans le lit. Lui, il est sur le dos, nu-fesse, puis elle est collée contre lui. Puis tu sais, ils sont super comme clair, obscur, dans la pénombre. Dehors, il y a un néon. Mm-hmm. J'étais comme, Chris, ce film-là, il est fou, là, pareil, là, visuellement. Là, j'ai pas habitué à ce que ça me fouette de même visuellement un film d'ici, avec la production de le truc d'époque. Fait que je suis comme, si c'est pour être de même tout le long, là, même si l'histoire dégringole, ça va être quasiment un 3 étoiles visuel pour moi. Mais
ouais.
C'était pas de même tout le long. Mais c'est ça, il y a des moments qui deviennent comme étrangement cheap et suréclairés versus ceux qu'au début. T'sais, même quand on voit Monica quand c'est jeune, là, on est supposé comprendre qu'elle est vraiment plus jeune, mais qui sont dans les années 30.
Ouais. Ben ça, c'est moi, je dirais un des gros problèmes que j'ai avec le film, puis c'est pas vraiment de la faute de Céline Bonnier. Mais Céline Bonnier, déjà en partant, a généralement l'air plus vieille que son âge. Elle joue souvent plus vieille que l'âge qu'elle joue. Puis là, ici, OK, Monica Peretti, quand elle est morte en 1967, elle avait 27 ans. Fait ça veut dire que Céline Bonnier qui doit avoir fin trentaine quand elle tourne ça. Au début du film, elle est supposée avoir comme 16 ans. C'est extrêmement difficile à gober. Puis Anne Cazabonne qui joue sa soeur plus jeune. Puis Anne Cazabonne qui est elle aussi à l'air plus vieille puis joue plus vieille que son âge, mettons. Elle aussi joue la soeur plus jeune de Céline Bonnier. Fait qu'Anne Cazabonne qui pourrait jouer un personnage de 40 ans. À se poser avoir comme 15 ans. Puis ça, c'est les affaires qui sont les plus stylisées. Puis là, tu te dis, ben, c'est peut-être ça l'idée aussi. Là. C'est, tu sais, nos acteurs sont pas... C'est le genre d'affaires qui aurait dû... Ça aurait dû changer d'acteur à mi-chemin à un moment donné. Là, tu sais. Parce que, je veux dire... Tu sais, déjà, le gap entre quelqu'un qui a 16 ans et quelqu'un qui en a 27 est énorme. Ça peut pas être quelqu'un qui est déjà plus vieux que ça qui doit dire avec ça. C'est trop demandé à quelqu'un. C'est pas de sa faute à Céline Bonnier ni à Anne Cazabonne. C'est juste, c'est trop, tu sais. C'est weird. Il y a quelque chose de super artificiel là-dedans, là, tu sais, qui est dur à gober.
Ben, c'est ça. Puis justement, pour en venir à un autre, je trouve aussi comme la deuxième comme grosse qualité du film, c'est justement la distribution. Parce que, ben, à part Frank Scorpion, Scorpion, qui est comme un Liam Neeson cheap, tu sais, tout le monde est vraiment bon, mais Céline Bonnier et plus tard Roy Dupuis comme sont étincelants. Là. Tu sais, sont comme. Il y a quelque chose que tu peux pas imiter. Il y a une énergie, il y a quelque chose de vraiment qui vraiment le fun à voir. Tu sais, il y a Roy Dupuis qui joue un gars de région qui est sous, là, c'est iconique.
Mais
c'est comme voir Marc Messier compter une menterie au sujet de l'adultère. Il y a quelque chose de parfait que c'est lui qui le fait le mieux au monde.
Mais je trouve, je trouve qu'il y a la. Tu sais, comme. Fait que la première scène où ce qu'on voit, Roy Dupuis, il rentre dans le bar avec son acolyte Mario Jean.
Ouais.
Puis, eux autres, ils sont pas partout habillés d'époque. Tu sais, comme. Parce qu'ils sont supposés des bombes, fait qu'ils ont comme, tu sais, des chemises carottées. Puis. Mais là, tu les vois rentrer, puis ils ont les cheveux normaux. Tu sais, comme Roy Dupuis a ses cheveux normaux de Roy Dupuis. Tu sais, il y a pas comme un genre de undercut des années 60, là, tu sais. Là, tu les vois arriver, puis là, soudainement, c'est comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces deux? Tu sais, on dirait qu'ils font comme un caméo aux Oliviers, là, genre. Puis ça fait comme, ah, OK, ça se stabilise plus tard, mais je trouve qu'ils sont un peu mal intégrés dans le... C'est ça, tu sais, le film est hyper stylisé au début, puis il en perd. Tu sais, la première... Je pense que c'est la première scène ou une des premières scènes où qu'on voit le milieu dans lequel la famille Sparvieri habite, puis que c'est comme... Je pense que c'est pour être le Faubourg Amelas, là, qui est autour de où est-ce qu'il y a Radio-Canada maintenant. C'est tout décrissé, là. Ça a l'air genre de Beyrouth, là. Tu sais, c'est genre juste des poubelles en feu. Puis Marc Labrèche, qui joue le père de Monique, qui fait des grands efforts, mettons, de ne pas avoir l'air de Marc Labrèche, mais...
Ouais, ouais, mais il y a une moustache, puis tu sais, il est tellement comme Marc Labrèche que t'es content de le voir. C'est le fun, mais en même temps, c'est ça aussi, c'est un facteur qui fait comme, oh, ceci va être vraiment stylisé, finalement.
Ouais.
À cause de comme c'est comme le deuxième personnage qui parle si c'est pas le premier.
Là. Exact. Fait que c'est tout cet aspect-là, c'est tellement stylisé. Puis là, j'ai trouvé ça weird que quand Redupuis et Mario Jean y apparaissent, ça n'a pas du tout l'air stylisé. Ça a l'air plus. Ben on va en reparler, mais en grande première, je peux vous annoncer que écoutez, Monica Lamitraille m'a lancé sur une écoute de Omerta. Fait que là, j'écoute Omerta en ce moment avec Maryse. On regarde ostensiblement tous les Omerta jusqu'à ce qu'on va se rendre au film avec Patrick Huard, parce qu'apparemment, je peux pas me défaire de Patrick Huard. Ma
non,
vie
on,
est rendue...
on est sur le Huard track en ce moment. C'est là, ça. On a répondu à l'appel du Huard, puis notre oreille est tendue.
Exact.
Puis comment tu trouves Omerta à date? Parce que je me rappelle moi, d'avoir écouté comme dans le temps, mais j'étais comme trop jeune pour que ça me pogne vraiment. Là.
Ben, honnêtement, c'est quand même bon. Je trouve ça quand même ça bon, mais tu sais, on voit aussi, tu sais, à l'ailleurs, regardant tout après Monica Lamitraille, tu sais, je vois que le gars qui a réalisé Monica Lamitraille, c'est lui qui réalisait Omerta. Parce qu'Omerta, c'est vraiment réalisé comme de la TV, dans la mesure où c'est tout le temps des close-ups du monde. Tu sais, on voit pas beaucoup de décors, on voit pas beaucoup de. Parce, c'est parce que probablement qu'il y avait pas. Tu sais, ils ont pas le budget de faire en sorte que l'extérieur a l'air de qu'est-ce qu'ils ont besoin, que ça ait l'air. Tu sais, fait que c'est beaucoup deux personnes qui se parlent du champ contre champ, tu sais, de la TV, là, en tant que tel. Mm-hmm. C'est ça que j'ai trouvé qui était le plus faible dans Monica Lamitraille. Puis là, je trouve que c'est mieux pour, tu sais, amortir ça un peu, je te dirais. Parce que Monica Lamitraille, tu sais, comme on voit où est-ce qu'il y a des lacunes, on peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire dans ce film-là, tu sais. Mm-hmm. Le film reste un peu, il y a de l'argent qui reste à la table, ou en fait non, là, parce que clairement tout le budget a été dépensé dans Monica Lamitraille, mais tu sais, tu le vois, puis c'est quand même intéressant, Omerta, tu sais, Omerta, c'est aussi une parade de face, là.
Ouais.
C'est comme une émission de TV québécoise à l'époque où tout le monde fait de la calvitie. Tous les personnages masculins font de la calvitie. S'il n'y en a pas un, tu sais, à part Michel Dumont, peut-être, là. T'sais. Comme c'est power, genre, tu sais, la télévision du papa.
Mm-hmm.
Mais il y a quelque chose de quand même bien ficelé là-dedans, tu sais. Puis ça joue mieux avec cette affaire, je sais, télévision, téléromanesque, de toujours des conflits entre deux personnes, essentiellement, qu'on retrouve quand même. Dans Monica Lamitraille aussi. Là.
Ouais, ben c'est ça, c'est comme. Ça, c'est une affaire qui m'a tout de même. C'est ça le gros problème du film, puis que ça tourne tout le temps en rond comme ça, parce que c'est soit une fidélité au livre ou une fidélité à l'histoire vraie, mais c'est une affaire qu'on. On va en parler aussi avec notre film de la semaine, notre autre film de la semaine, Argo. Oui. Moi, je suis à une place où maintenant, à cette heure, c'est basé sur une histoire vraie, mais je n'ai pas besoin que ce soit vraiment vrai. Puis c'est ça qui arrive, mettons, justement, à un Monica Lamitraille. Ouais, ben tu sais, c'est ça comme l'affaire avec le plus gros problème du film, c'est comme le récit qui décide d'être soit fidèle à la vraie vie de Monica Lamitraille ou du roman. Puis c'est ça que je trouvais dommage, c'est que j'étais comme. On est comme éternellement dans un genre de OK, là, mettons, juste avant la fin du premier acte, il va passer quelque chose qui va propulser notre personnage dans un nouveau monde dans lequel il va faire d'autres affaires. Puis ça l'arrive fréquemment à Monica, mais sa vie change jamais vraiment. À voir son amie, sa cousine Sylvana, incarnée par la merveilleuse Isabelle Blais, qui, ma foi, est hachi-machi dans ce film. Mais, tu sais, on va voir Sylvana 5-6 fois, puis ça va être tout le temps les mêmes affaires qui arrivent avec Sylvana.
Ouais, mais de pire en pire, elle est de plus en plus poquée à toutes les fois qu'on la voit. C'est juste ça, c'est...
Et de plus en plus poqué, mais on ne voit pas véritablement de fin de tout ça. Puis tu sais, ouais. Je comprends que ça peut être une affaire narrative, mais les circonstances de Monica, tu sais, changent un peu. Il y a des problèmes, mais ça gravit rien. Tu sais, j'ai récemment réécouté pour la première fois dans une vingtaine d'années Le Parrain, qui est, en avez-vous entendu oui. parler? C'est un film qui se cite souvent dans les livres de scénarisation.
Vieux succès.
Un vieux succès. Mais une affaire qui est vraiment intéressante, qui est vraiment cool du Parrain, de plein d'affaires qui sont cool de ce film-là, c'est que t'as vraiment que la caméra fait juste suivre un peu la vie puis le day-to-day, le quotidien de différentes personnes de l'organisation, mais tout ça s'embrique en une genre de saga, tu sais, dans une histoire qui monte constamment. Puis dans Monica la mitraille, tu sais, t'as différents paliers comme ça. T'as du travail du sexe dans des conditions rough. T'as un gangster comme de bas étage qui est un voleur de coffre-fort, un safe-cracker. T'as Rémi Girard qui joue comme un bon caïd crosseur comme, qui semble contrôler la moitié de la criminalité dans la ville.
Avec une dent en or qui fait... constamment. Si Rémi Girard, il aime ce prop-là, là, d'avoir une dent en or. Là.
Écoute, je pense que Rémi, tu donnes l'occasion d'avoir un tic comme ça, puis il fait un stigiba. Mais peut-être que Rémi a juste vu Marc Labrèche sa première scène, comme OK, c'est le même site.
Ouais, c'est ça.
Ça, ce film-là, fait que là, ma dent en or. Là.
C'est comme Sin City, ce film-là. Là. Fait qu'on est sous des faux backgrounds, puis ils allaient tous nous peinturer en noir et blanc après.
Parfait. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, t'as le club de nuit avec, de manière comme, tu sais, Sylvana, elle chante au début, fait que là, tu penses que ça va être ça. Il y a vraiment plein de paliers, puis tu check-in un peu sur ces paliers-là, mais ça grandit pas davantage, ça fait pas comme une plus grosse histoire. Tu sais, comme toi, moi aussi, je pensais que Monica Lamitraille elle était comme une folk hero, puis qu'elle était comme à la tête d'une organisation. Fait que, comment que le film commence? T'sais, comme là, je sais que c'est pas ça sa vie, mais là, j'y vais dans un film qui me donne des informations qui se construisent dans l'histoire. Moi, je pensais qu'elle allait éventuellement avoir comme une genre de maison de passe où elle gère des travailleuses du sexe, puis que tout ce qui me montrait au début, je suis comme, voyons, comment ça build à autre chose, puis ça n'arrive jamais. Mais là, l'affaire que justement, ce film-là a, c'est que t'sais, la plupart des acteurs sont vraiment super, super bons, puis c'est super regardable à cause de ça. T'sais, je te dirais que dans les derniers films qu'on a écoutés récemment, je me suis dit, OK, ben là, j'écoute 45 minutes, puis je vais écouter le reste demain, puis des affaires comme ça. Mais Monica Lamitra, je l'avais quasiment écouté tout d'une shot parce que j'étais tout de même dedans. Puis il y a une scène vraiment bonne à un moment donné où elle va en prison, puis elle va visiter comme tous les hommes de sa vie sont en prison. T'sais, son frère, deux de ses amants.
C'est organisé pour qu'à la fin, tout le monde soit dans la même scène.
Ouais.
Quand c'est pas là, Monica Lamitra, il meurt. Mm-hmm. Puis il entend ça à la radio, puis tout le monde, tous les hommes de sa vie sont dans la même prison autour de la même radio.
Ben, tu vois, ça, c'est peut-être trop cute scénaristiquement parlant, mais comme le film avait besoin comme de shit de même tout le long, je pense. Tu sais, d'avoir comme
Ben, c'est très anecdotique, tu sais, c'est très comme fait divers après fait divers, tu sais. Puis je comprends qu'à un moment donné, elle est morte, puis on n'a pas eu son récit, tu sais. Fait qu'on y va avec qu'est-ce qu'on veut. Puis si j'ai bien compris, la famille Proietti, ceux qui ont survécu, était pas tellement down avec la folk heroisation de Monica, tu sais.
OK, oui, oui.
Fait qu'ils étaient pas super collaboratifs. Fait que je comprends qu'on fait ce qu'on peut avec, tu sais, l'information qu'on a, tout ça, mais à ce moment-là, t'es aussi bien en inventer, tu sais, je pense. Comme il y a quelque chose que je trouve un peu... parce que je t'ai coupé dans ta pensée là, de la scène de prison. On reviendra à ce que je disais. Mmh.
Non, ben c'est ça, c'est ça que je voulais dire, que justement, comme la scène de prison, je suis comme, OK, tous les hommes de sa vie se ramassent en dedans. Me semble que ça, c'est je pensais que ça allait pivoter vers autre chose. Tu vois qu'elle dit qu'elle va, OK, ben je vais faire de l'argent pour aider tout le monde. Mais tu vois comme, OK, je vais faire de l'argent pour aider tout le monde, mais on dirait que ça la concerne juste dans cette scène-là. Puis ça n'a pas l'air de...
Ouais.
C'est un peu aussi comme ses enfants, comme tu sais, t'es pas tout le temps sûr de... OK, qui s'occupe des enfants? Tu vois que c'est quelqu'un d'autre des fois, mais tu le vois pas tout le temps. Quand elle se lit, elle s'amourache avec Patrick Huard...
Patrick Huard qui a une grosse énergie dans ce film de Philippe Signat. Avec sa moustache et son petit chapeau.
Cette vibe.
Ouais,
de
plus, plus Tony, ouais, Tony Légal, plus que Philippe Signat. Là,
oui, bien sûr, mais... bien sûr. Mais oui, oui. Puis quand que lui, il montre comment faire de la criminalité, je suis comme, ah, OK, cool. Là, parce que moi, mon oncle Yannick aime ça, savoir des détails sur comment les affaires fonctionnent. Mais aussi, je suis comme, OK, là, on va quelque part, on voit plus comment que c'est compliqué. Puis là, justement, elle faisait quelque chose versus être chez elle puis demander à son chum de danser avec elle, ce qui est aussi très valable. Mais c'est ça, comme tu disais, c'est, on retombe trop souvent dans le fait divers puis dans comme un peu un quotidien. Comme...
Il y a un peu du remplissage entre les crimes, essentiellement. Là. Puis tu sais, il n'y en a pas tant de crimes avant que Roy Dupuis arrive non plus. Roy Dupuis, c'est lui qui est comme un peu tête brûlée, qui veut tout décalisser. Là. Mais c'est surtout ça. Je te dirais le moitié, là, le noyau du film est extrêmement comme le même argument, peut-être avec des chums différents, mais ostensiblement le même argument avec trois dudes. Après ça, la même scène avec Sylvana. Sylvana est plus paquée un peu. Tu sais, il y a comme une scène avec sa mère où ce que sa mère a dit, comme ah, tu sais, vous autres, vous avez tout cet argent-là, puis moi, j'ai rien. Qui est extrêmement l'actrice qui joue la mère, qui est Marie-Josée Gauthier, qui, elle, est un peu plus dans un opéra, je te dirais, dans cette scène-là. Hein, parce que, ouais. Genre, maudit! Tu sais, il y a des, pas des ruptures de ton, mais tu sais, comme des ruptures d'intensité, je te dirais, qui font que c'est... Tu sais, comme, moi, je l'avais déjà vu. Est-ce que tu l'avais déjà vu avant?
Non, c'est la première fois que je le voyais.
C'est ça. Moi, je l'avais vu quand c'est sorti. J'en tirais quand même un bon souvenir, mais tout ce que je me souviens quand même, c'est encore des affaires qui me gossent. C'est-à-dire qu'on nous en met plein la vue avec le production design. Tu sais, t'as comme un pâté de la main qui a été recréé, puis tout ça. Puis là, soudainement, ça redevient totalement la même affaire. Tu sais, quand ils sont dans la rue, ils sont toujours sur le même pâté de rue. Quand ils sont dans un club, le club est toujours pareil, avec le même bouncer, avec le même ci, le même ça, tu sais. Puis, il y a quelque chose là-dedans qui, je sais pas, qui à un moment donné a commencé à me barber, tu sais, genre je suivais moins qu'est-ce qui se passait, parce que je voyais que le film virait dans le beurre un peu, tu sais, je sentais que ça virait dans le beurre. Puis ça, j'ai l'impression que en regardant Omerta, je comprends un peu pourquoi le film vire dans le beurre. Surtout si t'as pas les moyens de faire autre chose que des scènes de dialogue, tu sais. Parce que c'est drôle, parce que, tu sais, on a regardé Omerta hier, puis là, il y a une scène où ce que Brigitte Paquette parle à sa mère, France Castel, dans la rue, puis elle nous résume qu'est-ce qui est arrivé dans l'épisode d'avant, essentiellement, tu sais.
Mm-hmm.
Puis là, Marie-Lise, elle a dit, ben pourquoi ils nous racontent des affaires qu'on sait déjà, tu sais. Mais l'affaire, c'est que dans ce temps-là, la TV, tu pouvais pas la binger. Fait qu'il faut que tu insères dans la TV des scènes qui résument qu'est-ce qui s'est passé avant au cas où tu as manqué l'épisode la semaine, au cas où tu tombes sur l'épisode, tu sais.
Ouais, il y a une époque où, dans les années que les séries, mettons, surtout les séries américaines, duraient comme 22, 24 épisodes par saison.
Exact.
C'était reconnu que c'était comme étudié que le téléspectateur moyen pognait un épisode sur quatre de n'importe quelle série, même s'il aimait ça moyen, tu sais, genre, où il trouvait ça pas pire. Il écoutait juste un épisode sur quatre, fait que c'est pour ça qu'il n'y avait pas comme de narratif en série vraiment appuyé, puis qu'il y avait. Que la première saison, c'était 16 fois le premier épisode, là, tu sais.
Mais c'est ça. Mais tu sais, ce qui est intéressant dans Omerta, c'est que ça détruit ça un peu. Mais ils sont quand même. Ils ont quand même la contrainte d'être à la télévision, passer à la télévision, puis ne pas être sur un streaming ou sur un DVD ou whatever, tu sais. Je pense que c'est peut-être essentiellement pendant les Sopranos qu'ils ont commencé à faire fi de ça, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que, je sais pas, Omerta, probablement que 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, ça aurait été un peu différent, tu sais. Ne serait-ce qu'en sachant qu'il y a, il y a la possibilité de vendre des DVD avec ça. Mais c'est pour ça que, fait que c'est ça que, tu sais, puis là, c'est pas Pierre-Houle qui a écrit le film. Fait que si le film se répète, c'est Luc Dionne, qui est aussi un dos d'Omerta, non?
Oui, c'est le writer principal d'Omerta. Ouais.
C'est ça, Luc Dionne puis Sylvain Guy. C'est télévisuel. Sylvain Guy qui a écrit Liste noire, par ailleurs.
Ah là là.
Fait que tu sais, j'ai l'impression que Sylvain Guy est rentré là pour rendre ça cinématique, puis Luc Dionne est là pour rendre ça télévisu, tu sais, comme punché comme la TV, genre. Puis c'est là que le film un peu, tu sais, c'est vraiment quand le film se joue sur la ligne entre les deux, là, que je trouve que ça souffre beaucoup, là, dans le... Mm-hmm. C'est dans le rythme, puis un peu comme dans mon intérêt de revoir la même affaire 4 ou 5 fois.
Ben oui, ben tu sais, parce qu'elle a comme différentes... Le film nous présente différentes phases, puis mettons que le film est juste sur elle qui rencontre Patrick Huard, puis qu'elle a la misère à laisser son chum derrière, mais en même temps, là, elle rentre dans une nouvelle phase de criminalité, puis le film est juste ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ou si le film serait juste sur... Elle vient de rencontrer Roy Dupuis, puis là, elle peut aller au next level, puis ça va l'amener jusqu'à sa fin. Ça aussi, je pense que c'est intéressant, mais d'avoir tout collé ça ensemble, ou même si ça devient comme jusqu'à son premier... quand elle veut sortir de sa misère, puis qu'elle commet ses premiers crimes, elle passe, tu sais, on nous raconte que... Elle fait du travail du sexe à l'occasion, elle aussi. Puis qu'elle passe de ça, puis qu'elle décide d'être une criminelle, il y a comme une transformation, là. Tandis que là, je trouve que dans le film, même s'il y a ça, c'est juste tellement amorti avec la répétition que je suis comme juste, ah, c'est des choses qui arrivent.
Ouais, c'est ça, exact. Ça devient un peu... Mais tu sais, c'est intéressant parce que j'ai pensé à ça. L'autre fois, j'ai regardé un film, là, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais tout après avoir regardé The Fablemans, puis tu sais, on reparlera de The Fablemans, mais tu sais, dans The Fablemans, il y a une scène où il arrive au cinéma à moitié du film, puis ils parlent tout le long qu'ils sont là, tu sais, puis là, j'étais comme, tu sais, nous autres, on défend la sainteté du cinéma, puis tout ça, tu sais, puis les salles obscures, puis tout ça, mais quand j'en vois des vieux films, le monde, ils vont au cinéma, ils rentrent n'importe quand, ils sont encore lisses, ils sont 10 000, tout le monde parle, le monde filme des smokes dans le cinéma, tu sais, fait que clairement, la magie qu'on associe au cinéma est pas une magie de « on est à l'église », tu sais. Puis j'avais regardé un western, Texas Adios, avec Franco Nero, qui me semblait comme un film qui avait été conçu pour ça. Comme quand, tu sais, Judd Apatow, il faisait des screenings de ses films, puis quand le monde riait trop à une joke, il faisait une note, il dit « là, il faut qu'il y ait plus de niaisage, je peux pas enchaîner avec une autre joke après, parce que le monde va pas l'entendre. » Ce film-là, Texas Adios, je sentais qu'il était fait pour... Si tu rentres à n'importe quel moment du film, tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis des fois, Monica Lamitraille, j'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est que ça, tu sais, ça vire dans le beurre, justement. Puis on a tous les accoutrements cinématographiques qu'il n'y a pas dans Omerta. Tu sais, on a des beaux éclairages. Clairement, ils ont pris le temps de faire des moves de caméra que tu n'aurais peut-être pas le temps à faire avec la TV, surtout dans le temps, mais même maintenant, tu sais.
Il y a une chute où Roy Dupuis descend un escalier sur le bord d'un building, puis l'escalier se baisse et descend. Je suis comme, crime, on est-tu dans West Side Story tout d'un coup?
Tu sais, il y a une ruelle qui est utilisé étrangement, là, mettons. Ils sont souvent dans la ruelle pour des... quand ils devraient pas, là, je te dirais. Mais oui, tu sais, je veux dire, c'est ça. Il y a une volonté de vouloir faire des belles images puis de vouloir vraiment faire du cinéma. Il y a les moyens pour ça jusqu'à un certain niveau. Mais à un moment donné, tu sais, on dirait que la colle, les affaires qui viennent coller ensemble, ces moments de cinéma-là, est pas... C'est de la colle que tu fais avec de la farine puis de l'eau dans ton lavabo. Là. C'est un peu... je sais pas, il manque de quoi, tu sais. Puis j'ai pas... moi, j'ai pas vraiment aimé ça. J'ai pas haï ça non plus, tu sais. Mais j'ai surtout vu comme une opportunité manquée un peu de faire de quoi de vraiment, tu sais, très bon, I guess. Mais...
Moi, j'ai aimé ça plus que toi, mais je suis d'accord avec l'affaire d'opportunité manquée parce que, tu sais... Le look est là, les acteurs, comme tu sais, Céline Bonnier est tellement bonne là-dedans, tu sais, elle est électrifiante, t'es de son bord, peu importe ce qu'elle fait, tu sais, puis les hommes qui l'entourent, ben, à part Frank, tu sais, aussi sont vraiment bons. La plupart des ingrédients étaient là pour que ce soit vraiment, vraiment quelque chose. Mais finalement, c'est comme c'est juste correct. Mais mettons, tu sais, moi, ayant encore le câble, des fois, je tombe sur un film, puis je me laisse happer, puis j'écoute un bout, là. Puis justement, cela m'est arrivé avec West Side Story ce week-end. Mais, tu sais, je pourrais réécouter comme un 5-6 minutes de Monica la mitraille, mais là, ça recommencerait. Fait que le film rebooterait encore. Fait que là, je suis comme, ah, OK, là, je peux continuer à écouter autre chose ou passer mon chemin. Ce qui est dommage, mais bon. Tu sais, moi, j'ai 2 étoiles et demie bien senties.
Je voulais mentionner, dans mes recherches, j'ai trouvé quelque chose quand même intéressant, je ne sais pas, peut-être intéressant. 1967, le 12 novembre 1967, dans le Petit Journal, qui est un tabloïd style un peu le Journal de Montréal, mais qui paraissait seulement une fois par semaine, dans la section spectacle, dans un film de Claude Fournier, Dominique Michel sera la célèbre Machine Gun Molly. Et donc, on apprend ici dans ça, fait que ça, c'est avant même qu'il y ait la tragédie musicale, là. C'est comme un mois, 2 mois après la mort de Nicolas Mitreuil. Claude Fournier arrive et nous dit: je vais faire un film de Monica Lamitraille avec Dominique Michel,
Tout de même.
qui a été écrit par Jean-Pierre Lefebvre. J'aurais été curieux parce qu'effectivement, ça me surprend à Christ que ce ne soit pas Claude Fournier qui ait fait un film sur Monica Poretti. C'est comme un genre de miracle de la Thanksgiving là, que ce n'est pas arrivé. Puis l'autre affaire que je voulais dire, c'est le frère de Monica Lamitraille, Mario, qui s'appelle dans le film, mais
Oui.
qui s'appelait en réalité Robert, est mort en 1984. Au 1625 boulevard de Maisonneuve. Donc, le bloc appartement directement à côté du. Comme au coin de Maisonneuve puis Guy, là, direct à côté du Starbucks, là, fait que c'est proche de la Concordia.
Ok,
Dans l'explosion d'un colis piégé, 4 autres motards sont morts, toute la gang. Dans ça là, ça arrivait souvent, c'est arrivé la même année avec un VHS avec une bombe dedans.
tabarnak.
Au coin de Girouard et Sherbrooke, dans NDG. Donc, les motards se faisaient décimer au colis piégé en 84. Fait que ça, son frère a continué dans la criminalité pendant un certain moment et s'est fait exploser relativement tout près du métro Guy Concordia, les amis.
Grim.
C'est ça.
Garde gros props au film de ne pas avoir mis dans son générique, tout comme le film dont on va parler, des photos des gens, comment ils étaient comparés à
Oui,
ceux qui
oui, oui.
étaient pour de vrai. Cela dit, on a eu le blues de la Maine, porté par Nanette Workman.
Hey, ça, là. Parle-moi de finir. Nanette Workman, c'est ça qui fait un, t'sais, une toune sur le film.
Oui.
J'avais Gérald, c'était mon amour. C'est comme le blues de Montréal de Grégory Charles. C'est exactement la même affaire. Mais à la place de parler du boulevard Saint-Laurent puis des bagels, ça nous parle de l'histoire de Monica Lamitra.
Que mon garçon, j'ai une place pour toi au ciel. C'est comme...
Asti. Ça, ouais, ça, là, ça, c'est indéfendable. Je sais pas ce qui est arrivé, là. Appelez.
appelons Anne-Elisabeth Bossé. C'est
J'allais faire la même
indéfendable.
joke. J'allais faire la même joke.
Écoute, ça c'est ça les amis du la synchronicité, le mind meld du bon podcasting, c'est ça qui
Ben oui,
arrive les amis.
voilà.
Puis vous êtes témoins de ça.
Voilà,
Voyeur de
voilà.
vue. On va passer à notre film de la semaine, vu qu'on n'a pas vu de nouveauté. On continue notre segment, le Best of Ben. Puis là, je pense qu'on est
Oui.
dans le apex, t'sais, de ce qui serait le Best of Ben, parce qu'on
Oui.
parle de Argo. Argo, un film qui est sorti en 2012, qui a été, ma foi, extrêmement bien reçu, puis qui a aussi été des topé des listes de meilleurs films de l'année, qui a reçu, ma foi, moult.
Ben, ça a gagné plusieurs. Ça a gagné le Golden Globe du meilleur drame et meilleur réalisateur. Ça a gagné ben, l'Oscar du meilleur
Ben
film,
oui.
du meilleur montage et du meilleur réalisateur également pour Ben. Et moult autres trucs de critique, là, tu sais, de Los Angeles Film Critics Circle, puis des choses de même. Fait que oui, ça a été un gros hit. Ben, tu sais, peut-être. Ben, un gros hit au box-office aussi, 232 millions.
Ouais, ben, c'était
Qui est
assez gros.
absurde.
Ouais.
C'est 10 fois ce que A Man Called Otto a en ce moment. Fait que...
À partir d'un budget de 44 millions. Bien sûr, en 2023, on calcule le succès cinématographique, le succès en recettes, avec le multiplier de A Man Called Otto. C'est combien de A Man Called Otto un film fait? Le nouveau film de Tom Hanks.
dont personne
Vous
parle, tout le
pouvez
monde sait
croire.
Chris, mais qui a fait plus d'argent que Babylone. Pratiquement fait plus d'argent que Babylone et Fablemans ensemble.
Ben, m'a dit que Otto profite de son moment au top de la montagne. Parce qu'il y a un petit film qui s'en vient, Alex. Un petit film qui s'appelle
Ah
80
oui,
for
ben oui.
Brady. Que ça, là. Ouh, madame! Moi, j'ai reçu
Oh
une
là là, oh
invitation
là
pour ça
là, OK.
aujourd'hui. Fait que ça se pourrait que ça se fasse. Ça se pourrait que ça se fasse. Ça se pourrait même qu'on aille comme de.
Un épisode sur 80 for Brady.
Ben, la même semaine, on verrait aussi Knock at the Cabin. Fait que ça pourrait être une grosse semaine de voyeur de nuit.
Ouais, si ça arrive. Un doublé.
Fait que bref, regarde, là, faut sortir du 80 for Brady Mania et parler de Argo, qui est justement, qui est co-écrit puis qui est réalisé par Ben Affleck, qui est co-écrit par Chris Terrio, qui est un scénariste qui a eu un triste nom pour les gens comme moi par la Nerd of Sphere, parce qu'il est le co-scénariste de Batman v Superman, Dawn of Justice. Bien sûr, Ben l'avait amené sur le film pour beef up les trucs qu'il. Les intrigues de Batman ainsi que les intrigues du film en général. Et aussi qui a. Avec J.J. Abrams, a écrit Rise of Skywalker. Fait que je te dirais comme gros back-to-back pour Chris,
effectivement,
qui semble avoir écrit des films dans des conditions moins qu'idéales, ou du moins j'ai l'impression que son Justice League était moins pire. Puis que... Mais Rise of Skywalker, là, ça c'est. On a fait un épisode là-dessus, et dans le temps, et depuis. C'est un film qui a marqué ma mémoire et qui pose, qui est dans mon imaginaire d'une façon vraiment spéciale, parce que je pense qu'il représente le nadir du cinéma de IP corporatif moderne.
Je regarde la Wikipédia de Chris Terrio ici en ce moment. Il a commencé sa carrière d'une manière mystifiante. Il était assistant à James Ivory de Merchant Ivory pour le film The Golden Bowl avec Kate Beckinsale et Nick Nolte. Puis... 3 ans plus tard, il a fait le EPK pour le divorce, qui est aussi le film de Merchant Ivory. Mais faire un EPK, une job que j'ai déjà faite. Tu comprends?
Un EPK, c'est un electronic press.
Exact. J'ai déjà fait ça. Après ça, 2 ans plus tard, il réalise un film pour Merchant Ivory. Heights, un film dont j'ai jamais entendu parler, mais qui est avec Glenn Close, Elizabeth Banks, James Marsden, Rufus Wainwright. Un film qui existe, là. Là, je suis comme, il est passé de faire des entrevues sur un plateau, à réaliser un film, à écrire Argo. Tu sais que ça s'est passé en crise, là, son affaire. Là, c'est...
Il faut juste que tu aies un script. Alex, c'est peut-être le temps que tu aies un script de
paix. Ouais, c'est ça, mais...
Juste au cas pour voir le slider en dessous de la porte de quelqu'un.
Mon film sur Richard Blass.
Why not?
Ben, j'ai pas ça. Mais en tout cas, bref. Oui, Chris Terrio. Puis Argo, qui vient d'un article de Wired, je me souviens d'avoir lu cet article-là quand c'est sorti, qui vient d'une très bonne histoire, en fait. C'est avant de rentrer dans notre appréciation particulière d'Argo, plutôt, je voulais dire, tu sais, ça rentre dans un genre de film based on a true story que je trouve excessivement difficile à réaliser comme du monde. C'est l'affaire que quand quelqu'un te raconte l'histoire, tu dis « Chris, ça fait vraiment un bon film, ça ».
Ouais.
Jamais, presque jamais, quand j'entends une histoire de même, le film qui en résulte est bon. Fait que, tu sais, parce que je pense que des fois, il y a des histoires que l'histoire est tellement bonne qu'il y a tellement d'angles de quels tu pourrais approcher l'histoire à raconter. Il y a tellement d'histoires à raconter à l'intérieur de l'histoire que tu racontes que le fait que tu prennes une décision, ça va automatiquement rendre l'histoire moins intéressante. Ce qui est problématique. Puis je pense qu'il s'applique un peu à Argo aussi, mais pas tout à fait, mais. Il y a quelque chose de, tu sais, c'est produit par George Clooney, puis ça paraît un peu, genre. C'est quasiment plus un film de George Clooney qu'un film de Ben Affleck, je te dirais. Dans la mesure où, oui, tu sais, c'est Clooney-esque.
Tu sais, c'est, ben, pour l'histoire, ceux qui savent pas, ça raconte comment un agent du CIA a voulu sauver des otages en Iran et... Pour ce faire, pour pouvoir infiltrer le pays et sortir les otages du pays, il a créé une fausse production d'un film de science-fiction qui s'appelle Argo. Puis il a dit comme, je me pointe au pays et les gens que je dois exfiltrer du pays sont le crew de production.
Exact.
Alors, pour ce faire ça, il faut qu'ils vendent l'idée à la CIA. Puis après, il faut qu'ils aillent à Hollywood pour créer l'illusion d'un film et ensuite pouvoir se rendre justement en Iran. Puis l'affaire qui est très... C'est en effet super Hollywood de la façon que, tu sais, ça réunit comme 3 films. T'as comme un film très... Il y a une facture 70S Pacula All the President's Men quand t'es à la CIA. Quand t'es à la CIA, tu sais, c'est ça. C'est des bureaux. La caméra est à la hauteur du monde qui sont assis au bureau.
C'est plein d'eux avec des gros cheveux puis qui ont les manches roulées sur leur chemise puis qui ont l'air à bout.
Ensuite, l'aspect Ça, c'est quasiment tout le temps à l'intérieur.
Mm-hmm.
Là, t'es à Hollywood où t'es quasiment tout le temps à l'extérieur. Il y a du soleil, où il y a des fenêtres qui le soleil rentre par là. Et puis là, c'est plus funny ballonné puis des affaires comme « Si tu penses que dealer avec les terroristes, c'est dur, attends de dealer avec les agents. »
Ouais, t'sais, exact.
Beaucoup de blagounettes comme ça. Et t'as ce qui se passe en Iran, qui ça est vraiment comme plus un drame avec beaucoup de tension, des otages, du monde qui se cache, qui ont peur de se faire pogner, et le carnage révolutionnaire qui est à l'extérieur. Puis, c'est comme tu disais, juste le fait que ces éléments-là sont ensemble, puis ils sont tressés de façon crédible, puis qui fonctionnent, comme, en effet, c'est quasiment irrésistible
c'est
comme
ça.
Idée de faire un film. Puis une fois que tu le regardes, t'es comme, ouais, c'est vrai que ça marche.
Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense qu'il aurait vraiment fallu pédaler en esti pour que Argo soit mauvais. Tu sais, c'est un peu du tout cuit dans le bec, mais je pense que justement à ce niveau-là aussi, c'est difficile d'imaginer un Argo qui est comme un chef-d'œuvre parce que justement, c'est tellement schématiquement un film. Tu sais, c'est tellement.
Ouais.
Puis tu sais, surtout les aspects, tu sais, ça a gagné le score du meilleur film. Puis je pense que c'est vraiment à cause de toutes les cracks contre les agents puis la WGA puis les affaires qu'Alan Arkin fait, tu sais. Alan Arkin, il parle aux voteurs des Oscars dans ce film-là.
Ouais, oui, oui, c'est assez éhonté, là. C'est tout le temps des blagues de ci puis de ça sur comment faire des films, puis ultimement, faire des films, c'est le fun.
Puis tu sais, Alan Arkin, il n'y a pas vraiment de meilleur vieux talent que lui, là. Tu sais, il emporte ça, cette palme au la main. Fait que tu sais, c'est le fun, c'est drôle quand il est là. C'est pas vraiment transgressif ou utile tant que ça. Puis je pense que c'est un peu, tu sais, c'est ça, comme tu dis, il y a trois parties au film, puis pour moi, c'était impossible que ces trois parties-là se marient parfaitement. Ça allait jamais arriver. C'est similaire à The Town, dans un sens, tu sais, où est-ce que je pense que j'aime un petit peu plus The Town qu'Argo.
Ouais.
Mais les films sont... la description, c'est vraiment dans les règles de l'art. Des films par du monde qui ont vu des films et qui comprennent comment ça marche un film, mais rien de plus que ça. T'sais, ça amène pas à un autre niveau. Puis tu sais, je pense que tout le monde est bon dedans, c'est intéressant. C'est toujours fascinant, il y a plein de détails. J'imagine difficilement pourquoi je trouve que ça lève pas tant que ça. Pas que ça lève pas, j'ai eu du fun à le regarder, j'étais entertained, mais tu sais, après ça, c'est pas un film tant mémorable que ça. Les personnages sont pas, ça c'est une chose, les personnages sont pas vraiment bien définis. Surtout le personnage de Tony Mendez, là, le personnage de Ben Affleck, que tu sais, la grosse affaire qu'il définit, c'est, bon, sa femme, elle y parle plus, puis il s'ennuie de son fils. Puis là, t'as comme des scènes crissement crobard inutiles de sa femme qui l'haït. J'aimerais ça que tu viennes à sa game de baseball. Tu sais, puis des astuces d'affaires, des clichés que clairement c'est là parce qu'il faut que ça soit là. Mais il y a personne qui aime ça faire ça. Tu sais, ça intéresse personne.
Ouais, ben, une affaire que je trouve intéressante là-dedans, c'est que, tu sais, on a souvent parlé de. Quand on a parlé de Good Will Hunting, puis. Aussi avec The Town, c'est que Ben, dans ces films-là, il a écrit des scripts avec des affaires cool à jouer. Il s'est donné des affaires cool à jouer. Ben, je trouve que Argo, là-dedans, il n'a pas vraiment.
Non, c'est ça, c'est effectivement.
Il y a juste comme la réunion de CIA au début où ce qui explique pourquoi que les plans d'exfiltration que le reste de la CIA suggère ne marcheraient pas.
Mm-hmm.
C'est que là, il y a de l'air cool, puis il y a de l'air badass, un peu. Mais sinon, le reste du temps, il ne shine pas tant que ça. Dans le dernier tiers du film, beaucoup des interactions dans le dernier tiers du film, c'est Scoot McNairy qui dit comme « Non, ça ne marchera pas,
ouais.
Je ne veux pas.
»
Puis lui, il est comme « Ah, oh, come on, man, essaye. »
C'est vrai que Scoot McNairy, plus présent dans ce film-là que j'aurais pu penser là, au début. Parce que c'est ça, les otages sont très peu présents avant la fin. Là, ils sont juste là, puis ils n'ont pas tant de personnalité. Puis là, à un moment donné, Scoot McNairy, c'est lui qui décide que lui, il en a de la personnalité. Puis lui, il est là, puis ben, c'est pas lui qui décide. Le film décide ça pour lui. Puis le film manque peut-être un peu de crunchy, genre de grit. Je trouve ça se passe. C'est très lisse, tu sais, comme jamais. Tu sais, il y a du suspense, mais jamais j'ai vraiment pensé, ah, il va se passer de quoi de fucky, là, tu sais, c'était... Ce qui est intéressant, c'est que toute la scène de thriller à la fin, le set piece de comme une demi-heure des otages qui quittent, c'est pas une scène d'action, c'est vraiment une scène d'arrêt au port.
Ouais.
Fait que ça, c'est quand même bien mené, considérant qu'il manque tous les éléments qu'on pourrait s'attendre de ce type de scène-là. Je sais pas, tu sais, je trouve que c'est difficile de parler d'Argo un peu parce que je pense que ça fait ce que c'est supposé de faire. Ça le fait correctement. Mais je sens pas comme une... Je me demande si, mettons, si Ben Affleck était surpris de gagner des Oscars pour ça. Parce que je le sens pas aussi dévoué à ce film-là qu'il était dans ses films précédents. T'sais.
Non, ben c'est pas autant que de tendre. Mais c'est drôle aussi, il a même choisi d'avoir des cheveux weird. Toute la
ouais, il a l'air de... Il ressemble à Yannick de Martino.
Écoute. Ça, okay. Il libère. Ben, il y a une scène où il prend une bouteille d'alcool de l'ambassade canadienne, puis il la boit dans son hôtel, tout ça, ouais. Puis il libère l'ours en lui, qui est très bonne. Mais, tu sais, c'est ça, comme. Une affaire aussi, je trouve particulière, tu parles de la scène de l'aéroport, qui est vraiment comme un thrill à la fin. Je suis comme. Cette scène-là est vraiment comme. Je la trouvais comme. Oh shit, cette scène-là est vraiment meilleure que tout le reste
ouais,
du film.
C'est pas mauvais, aussi.
Mais c'est tellement dans le tapis, puis bon, que là, je suis comme. Ah, je pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi ce film-là, la réputation qu'il y a, c'est que la fin est vraiment satisfaisante. Elle est tellement satisfaisante que même le 5-7 minutes qu'il ajoute après, qui est comme pas si bon que ça comme conclusion.
Mm-hmm.
Mais par exemple, qui selon moi explique pourquoi Ben Affleck a décidé de jouer Batman. Et comme, ah ok, mais ce moment-là était vraiment fort, puis tu sais, ça build bien jusqu'à ce moment-là. Mais je suis d'accord que c'est difficile d'en parler parce que, tu sais ça, c'est bien correct, c'est bien fait, comme tu sais, mais il y a un aspect là, tu sais, tu parles d'Alan Arkin, mais tu sais, Alan Arkin dans des scènes avec John Goodman aussi, puis ça, c'est juste, c'est pitcher des three-pointers tout le temps d'avoir ces deux-là dans
exact,
une scène.
C'est...
Qui font des simagrées d'Hollywood, t'es comme, oh yeah!
Ta job est faite, là, tu sais, maintenant, ils vont voir Richard Kind. Genre, Richard Kahn a un caméo d'une scène où il leur dit, les envoie promener, ça seulement. Puis tu sais, là, tu vois que ça, c'est juste du fun. Tu sais, c'est George Clooney, c'est genre le meilleur ami de Richard Kahn, pour une raison mystifiante. Il était coloc, en fait, dans les années 80. Puis, tu sais, il y a quand même un certain. Il y a quand même un niveau de on se fait plaisir avec Argo. Tu sais, c'est un peu une crassette. Outre le thriller politique, tout ce qui n'est pas le thriller politique est un peu une crassette. Fait que je pense que moi, j'ai de la misère un peu à accepter les deux parties du film comme étant venant du même film. Je sais pas si ça fait du sens. Comme, c'est vraiment pas un mauvais film, mais ça réserve très peu de surprises, puis toutes les choses qui sont, mettons, décalées un peu, je trouve le font de façon très self-conscious, en anglais, je dirais ça. Tu sais, comme le film... C'est un film qui sait exactement qu'est-ce qu'il est, à qui il parle, qu'est-ce qu'il fait à tout moment. Puis d'habitude, ça serait une bonne chose, je pense. Puis ici, je trouve que c'est un peu, je sais pas, je me sens un peu. J'ai l'impression qu'on me parle de façon condescendante, un peu. Je sais pas comment dire ça. Mais c'est encore là, c'est vraiment pas un mauvais film. Mais. Est-ce que ça valait de gagner l'Oscar? C'est sûr que non. La même année que fucking There Will Be Blood, je pense. Ça se peut-tu? Non, pas partout. Ouais, c'était pas tant une bonne année. C'était Argo, Les Misérables, Life of Pi, Lincoln ou Zero Dark Thirty.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Whatever, dans le fond. Bon, fait que c'est correct si Argo a gagné. Et ouais, je sais pas. C'est... Ah, ben The Master, il y avait The Master cette année-là, mais c'était pas en nomination. Mais en tout cas, bref. Tu sais, c'est un film, je pense que les gens en parlent pas beaucoup. T'sais, c'est un film que tout le monde a vu quand c'est sorti puis ils l'ont aimé. Il en tire un bon souvenir, mais il n'en parle pas beaucoup parce que je ne pense pas que c'est nécessairement... T'sais, ça remplit pour moi genre une coche de plus qu'une adaptation d'un Grisham, quasiment.
Ouais.
C'est juste une coche de plus que ça parce que c'est plus complexe. T'sais, ça va dans des zones plus intéressantes, mais c'est pas le film qui va dans ces zones-là, c'est la réalité qui allait dans ces zones-là. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça... Je vois pas ça comme un film que justement je regarderais s'il repassait sur le corps, tu sais. Même si l'expérience en tant que telle est bien correcte.
Mais qu'est-ce que tu dis, par exemple, de, tu sais, mettons, l'énergie d'Affleck dans ce film-là, mettons, tu sais, là, il est comme séparé d'un enfant, il boit tout seul.
Il est ultra poilu. C'est le début
Ouais.
de Sad Fleck. Je pense que ça, c'est le Sad Fleck. Tu sais, il a certainement déjà joué des personnages tristes, là. Mais effectivement, il n'y a pas de mime s'il n'y a pas Argo, là, tu sais.
Non,
Argo
non, ça
est
commence, là.
important. C'est vrai que c'est ça, dans la Fleckologie, c'est quand même un texte fort. C'est la
Oui.
même année que To the
Ouh.
Wonder, d'ailleurs. Fait que c'est une année très triste pour Ben Affleck, là, si on regarde ça de même,
Ça va pas bien, lui, avec le gars de Lenko et tout
là.
ça, là. Est-ce que ça va pas bien? Ce qui arrive dans Into the Wonder, c'est comme je l'imagine, c'est comme un peu sa vie entre des films, puis que ça va pas bien, là. Tu sais,
Il regarde
c'est
des
un peu
champs et il se
pénible, là.
roule à terre.
Il se roule à terre, il est avec une femme qui pense qu'il va aimer pendant un bout, mais c'est pas ça qui va
Il était capable
arriver,
de
puis.
communiquer avec. Puis...
Ah,
Ouais,
d'accord. Là-dessus, je pense qu'on va terminer
ben
parce
ouais.
que, crime, on a de la misère à trouver des choses à dire sur le bon angle. Mais tu sais, c'est. Regarde, moi, je m'étais pris Stars.
OK.
Mais ça va venir à Stars pour le voir. Fait que je me suis dit, à place de louer 5$, pourquoi pas débourser 7$ sur Stars puis avoir une couple de films en même temps? De plus. Ah oui, je voulais dire que, tu sais, on comprend que Tony Mendez. Son idée de faire un film de science-fiction, dans le fond, vient de son désir de communiquer avec son enfant. Puis à la fin, tu sais, tu vois justement la chambre de l'enfant avec
Oui.
toutes les bebelles de Star Wars, des trucs de science-fiction, et éventuellement le storyboard de Argo, c'est ça qu'il voulait dans le fond. Il voulait comme connecter avec son enfant, puis être comme faire partie des héros de son enfant. Puis dans une entrevue, Ben, il avait dit comme c'est pour ça qu'il a décidé d'être Batman. Mais j'étais comme, ah ok, ça a du sens. Mais je pensais pas qu'il avait comme mis ça de façon textuelle dans un film
Oui. Ben, les
auparavant.
derniers shots du film, c'est littéralement des bonhommes. C'est genre les bonhommes
Ouais.
de C-3PO puis de Darth Vader, du kid. Puis tu sais, voici qu'est-ce qui s'est passé à ces personnages-là après la fin du film, là, ce genre de texte-là. Et par-dessus, des bonhommes de C-3PO puis de Spock puis des affaires, tu sais, des figurines, genre. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est textuellement exactement ça. Le film ne pourrait pas plus être plus évident. Mais tu sais, c'est sûr qu'après ça, Alan Arkin qui fume des cigares puis qui fait des jokes de It's a turnaround!
Hey,
It's
peux-tu dire qu'ils l'aiment leur joke à Argo Fuck
a turnaround! Oui,
Yourself là?
aussi,
Ils
Argo.
nous la donnent quatre
Ouais,
fois là.
Argo, fuck yourself.
Tellement.
Mais oui. Puis, ouais. Tu vois, plus j'en parle du film, plus comme on dirait que ça m'est banal. J'ai eu du fun à le regarder, puis j'ai pas de fun à en parler. J'ai du fun à parler avec toi, Yannick, comme
Bien
on
sûr,
a du
bien sûr,
fun à
bien
toutes les
sûr.
semaines. Mais, tu sais, je trouve pas ça comme un film qui est tant intéressant à discuter. Puis, c'est la première fois, je pense, depuis qu'on fait Best of Ben, que je suis un peu comme, ben ouais, c'est ça. C'est ce que c'est. Puis,
C'est ce que c'est.
c'est, tu sais, on en a fait des pires, là. Surviving Christmas, j'avais plus d'affaires à dire que sur Argo.
Et je te dis, écoute, on verra notre prochain, ça va être quoi qu'on va à
Mais
dire.
tu sais, puis ben l'affaire qui est intéressante aussi, c'est qu'après ça, il y a juste un film réalisé par Ben Affleck qui sort après, puis c'est le
Oui.
regretté Live by Night, qui est un film de gangster assez plate.
Ouais, mais je veux vraiment le voir, là, par exemple.
Ben
Je sais que ça va être plate. Je veux pas nécessairement l'imposer pour le show, mais j'ai vraiment hâte de le voir parce que je l'ai dit avant et je leur ai dit que tu sais, le fait qu'il a joué Batman, c'est une occasion manquée. Puis là, j'écoute des Batman Animated, puis là, je suis comme ah oui, il aurait pu faire ça. Puis là, de savoir qu'il y a un film où ce qui va être essentiellement habillé en gangster des années 30, comme dans ce genre de sceptique-là,
Ouais.
j'ai vraiment hâte de m'emmerder pendant 2 heures et quart juste parce que j'étais comme, hey, si je plisse les yeux, il est comme un Batman idéal. Bref, là-dessus, je pense qu'on va terminer
Ben
parce que je dois aller manger une pizza étant affamé.
ouais.
Mais écoute, Alex, on aimerait ça inviter les gens à notre quiz
Oui.
du cinéma moderne la semaine prochaine, mais on ne peut pas parce qu'il est sold out.
Ben oui. Fait que ce qu'on va vous inviter de faire, c'est écrivez au cinéma moderne puis dites, faites plus souvent des quiz.
Exactement,
Forcez-les
qu'on
à
soit.
nous donner plus de jobs à faire. Puis là, on va l'apprendre volontiers. Mais on ne peut pas, malheureusement, plugger notre show parce qu'il devient sold out instantanément, le jour où on l'annonce. Donc, on aimerait bien ça que tout le monde sur la Terre puisse venir, tout le monde qui nous écoute, mais on ne peut pas.
Fait que, si il y en a plus souvent, peut-être vous allez avoir la chance.
Allez gosser sinon, le monde au cinéma moderne. Là. Allez les voir. Là. Dites, là, hey, quand ça se fait qu'il n'y a pas un quiz à tous les jours ici?
Là, j'ai soif de quiz.
C'est ça. Pourquoi c'est pas le quiz moderne à la place du cinéma moderne? Ça meurt le cinéma de toute façon. Les quiz sont en pleine ascension.
Oui, c'est ça. Maintenant, on ne va plus rien faire d'autre que se poser des questions sur d'autres affaires qui n'existent
pas. Ça va être des questions sur les quiz. Au quiz du Major Tom de janvier 2019.
Quelle était la question?
Combien de bières est-ce qu'Alex? Ah, ça serait dur à suivre parce qu'au Major Tom, on avait des petits pichets. Ça se comptait pas.
On t'inquiète à Motadine. Mais en attendant, Alex, les gens peuvent se trouver où sur Internet?
Sur Twitter, Alex Rose, avec deux petites barres en bas à la fin, et Bert Simpson sur Letterboxd. Puis sinon, c'est ça. Puis là, semaine prochaine, on va revenir vraiment avec un épisode, probablement un film plus intéressant à discuter.
Ouais.
Puis je vais pas avoir commencé une nouvelle job aussi la semaine prochaine. Fait que ça va être plus... Tu savais, la vie, c'est intéressant, je pensais à ça aujourd'hui. C'est la première fois depuis qu'on fait les voyeurs de vue que la vie existe. Tu sais, bon, on la faisait de façon intermittente sur le Patreon, là, mais que la vie est vraiment là. Tu sais, qu'il n'y a pas de lockdown, ouais. Que j'ai une job, que tu sais, on a des affaires à faire, qu'on peut sortir puis aller, mettons, au resto ou wherever que tu vas manger ta pizza, j'imagine, dans un resto. tu sais. Fait que c'est sûr que là, c'est la première fois qu'on a frappé le mur de « oh shit ». Des fois, il y a d'autres choses à faire qu'à faire des podcasts. Parce que quand on a commencé, il n'y avait pas d'autres choses à faire qu'à faire des podcasts.
Ouais, ouais. Écoute, une époque dorée à sa façon.
À sa façon, mais tu sais, regarde.
Pour le podcasting, mais pas pour le reste de
l'histoire. Pas pour mon compte en banque, je vais te dire, certain.
OK. pour ma part, vous pouvez me trouver à Tiny Bézil sur Twitter, sur Instagram, sur Letterboxd. J'ai aussi une infolettre qui est au yannickbézil.substack.com où je parle de trucs de nerd qui me passionnent. Vous pouvez me trouver là. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, allez voir des vues.
Yeah.